Dans la dernière partie de cet entretien avec Pia, elle parlera de l'impact qu'a eu son handicap sur ses études et sur sa découverte de Paris où elle vit actuellement. Les obstacles du quotidien, le métro, les déplacements, etc.
Quand j'ai décidé donc de partir de chez mes parents pour aller à l'université, j'ai choisi d'aller à Lyon puisque c'était une ville que je connaissais puisque ma mère est lyonnaise et que j'ai passé beaucoup de moments là-bas, notamment pour mes hospitalisations. Donc effectivement, tous les 6 mois, en fait, je suis évaluée à l'hôpital pour voir si y a des changements en fait au niveau oculaire. Donc c'est quand même des examens à répétition, ce qui fait que j'y allais très souvent. Et pour moi, à chaque fois, c'était pas forcément une partie de plaisir. Mais pour autant, je connaissais bien cette ville, ce qui me permettait d'avoir un petit peu de voilà, j'étais plus rassurée en fait. Donc j'ai décidé de faire des études de psychologie. Tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'étais particulièrement à l'époque, je me rendais compte de ça, j'étais particulièrement à l'écoute des gens, j'aimais les écouter surtout, j'aimais voilà, prendre le temps d'essayer de comprendre les situations, j'avais, je pense, de l'empathie pour les gens, de la bienveillance. Et voilà, donc ça m'a confortée après avoir fait aussi plusieurs thérapies. Ça m'a confortée à me dire bah, en fait, je me sens bien dans ce domaine et je pense que visuellement, ça sera quelque chose qui me sera accessible puisque on n'est pas derrière un bureau à passer du temps sur l'ordinateur ou voilà. Donc à l'époque, c'était ça le projet. Ce qui a été compliqué pour moi, c'est que je faisais quand même depuis très longtemps du théâtre et j'avais dans l'idée également de faire une école de théâtre à l'époque. Seulement, je pense que j'avais pas assez confiance en moi et surtout, je me suis dit, déjà pour n'importe qui, une école de théâtre, on n'est pas sûr du résultat par la suite au niveau du salaire dans le quotidien. Et moi, je ne pourrais pas, à côté de ça, effectuer des boulots alimentaires, en fait. Parce qu'il y a plein de choses que je ne peux pas faire. Compter l'argent, être sur un ordinateur toute la journée, écrire. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses de être serveuse. Voilà, donc faire du théâtre, être comédienne et à côté devoir me débrouiller par des petits boulots, c'était quand même pas l'idéal. Ce qui fait que j'ai très vite laissé tomber cette idée. Qui aujourd'hui revient beaucoup dans ma vie et qui n'est pas perdue. Ça sera pas le même projet, mais disons que voilà, ça revient dans d'autres formes. Donc j'ai décidé de me lancer dans la psychologie. J'ai été pendant 5 ans, donc j'ai réalisé ma licence au lieu de 3 ans. J'ai d'abord vécu une première année dans une résidence étudiante. Où là, ça m'a permis effectivement de découvrir que j'étais tout à fait capable d'être autonome sur plein de plans et de découvrir la ville tranquillement, etc. J'ai beaucoup aimé cette année-là, mais ça a été une année très chargée en fait, parce que effectivement, on se retrouve lâché dans un milieu qu'on ne connaît absolument pas, même si on connaît plus ou moins la ville pour le coup, que ce soit l'université, que ce soit la vie en communauté dans une résidence étudiante, que ce soit voilà, c'est très tout est nouveau, donc il y a beaucoup d'excitation, mais en même temps beaucoup de crainte et en fait. À partir du moment où on sort de l'adolescence, après nos 18 ans, on est très peu suivi en fait par les associations pour faire effectivement la transition avec le monde adulte et puis le monde étudiant. Donc au début, il y a un minimum de suivi à la fac où l'association essaye de faire en sorte qu'on puisse s'installer correctement dans notre quotidien. J'avais une ergothérapeute qui venait pour m'apprendre à faire la cuisine. J'avais une éducatrice en locomotion qui m'a appris à utiliser la canne blanche dans Lyon. Ce qui a été une grande épreuve pour moi parce que ça voulait dire encore plus appuyer le regard de l'autre. Ce qui était à l'époque vraiment très compliqué et ce qui le reste encore aujourd'hui, je pense, de toute façon, selon les situations. C'est toujours pareil. Voilà, donc j'ai appris beaucoup de choses cette année-là. Et je me suis beaucoup plu à l'université. J'ai pris mon temps effectivement pour faire mes études. Au début, c'était pas vraiment le programme de base, mais disons que en fait, Je me suis vite rendu compte que j'avais besoin quand même de plus de temps que les autres, que ça me convenait bien comme ça. Donc ce que je faisais, c'est que souvent en fait, j'entrecoupais mon année en fait, voilà, je faisais une année en 2 ans. Donc d'où les 5 ans, j'ai fait ma deuxième et ma troisième année voilà, sur différents temps, ce qui fait que ça m'a permis aussi de prendre plus soin de moi et de pas vouloir absolument faire comme tout le monde, d'y aller à mon rythme, de sentir quand j'avais besoin de certaines choses, de connaître mes limites aussi sur d'autres, ce qui était très important finalement, puisque j'ai eu des complications de santé, donc dues à l'évolution de ma pathologie à cette époque. Et donc notamment en fait l'évolution donc déjà j'avais toujours ces inflammations qui sont toujours présentes aujourd'hui et toujours ces ulcérations qui arrivent sur la cornée et qui sont extrêmement douloureuses donc qui provoquent des douleurs chroniques dans le quotidien qui du coup nécessitent un traitement pour la douleur voilà tous les jours et également des examens réguliers dès qu'il y a des ulcères. Donc, à l'époque, en 2011, j'ai commencé à avoir une évolution d'une des caractéristiques de ma pathologie, qui est la cataracte, qui est notamment en fait l'opacification du cristallin, qui est une pathologie qui arrive généralement pour les personnes plus âgées, en fait, voilà, mais qui chez moi est associée à la nyridie, donc à ma maladie, depuis la naissance. Ça a été très surveillé tout au long de ma vie. Il y a eu des périodes où ça a un peu évolué. Cette opacification du cristallin provoque du coup la perte de vision sur du plus ou moins long terme. Moi, elle avait évolué assez tranquillement jusqu'à mes 12 ans. Après, il y avait eu un pic. Et là, effectivement, en 2011, elle a évolué très brutalement. Ce qui fait que, en fait, je me suis retrouvée à avoir une perte de vision assez rapidement. Et j'ai, au début, comme j'ai entendu dire, en fait, toute ma vie jusque-là, jusqu'à 2011, qu'il fallait, en fait, essayer de retarder le plus possible cette opération, donc de la cataracte, parce que sur un œil qui est très sensible comme le mien et qui est déjà mal formé à la base, cette opération se fait très bien normalement, mais là, ça sensibilise beaucoup plus l'œil, ça veut dire effectivement qu'on vient le toucher, l'irriter, etc. Et ça peut créer des complications. Et donc, ma mère ne m'a pas laissé le choix. Elle a appelé les médecins spécialistes qui s'occupaient de moi à l'époque. Et donc, j'ai été prise en charge. Et là, on m'a annoncé qu'effectivement, j'allais perdre la vue. Et que donc, j'avais encore 1 an devant moi avant de me faire opérer. Que ça évoluerait tranquillement, voilà, pendant 1 an. Et qu'après, je devrais me faire opérer effectivement des 2 yeux. Donc, dans ces cas-là, on change le cristallin. En fait, on en met un artificiel. Et au bout de 6 mois, j'ai complètement. Enfin, je voyais plus rien en fait. Voilà, j'étais aveugle au bout de 6 mois. Donc, même je dirais 5 mois. Ce qui fait que ben, ça a aussi à nouveau bouleversé mon quotidien. Psychologiquement, ça a été très compliqué. J'ai quand même continué mes études, puisque c'est ce qui me faisait tenir. Et j'étais en troisième année de licence et je voulais absolument en fait boucler voilà, mon année, quoi. Et puis en fait, bon bah, les choses ont fait qu'effectivement mon année a été à nouveau chamboulée. J'ai quand même réussi à continuer. Je vivais seule à cette époque-là. Après mon année en résidence universitaire, en fait, j'ai décidé d'avoir un appartement seul, ce qui était absolument incroyable pour moi. Mais finalement, bah, ça se passait très très bien. Et donc voilà, j'ai continué à aller à l'université, mais beaucoup moins, c'est-à-dire que j'ai commencé à utiliser du matériel que j'utilisais pas spécialement avant, beaucoup plus basé sur l'audio. Donc du coup, j'ai commencé effectivement à apprendre tout à l'oreille, tous mes cours, en fait, comme je ne lisais plus, j'ai du tout, pour le coup, même tout ce qui était très gros, etc., avec la cataracte, je pouvais plus lire. Donc j'ai appris tous mes cours à l'oreille, et en fait, j'ai développé une mémoire absolument extraordinaire de ce côté-là, je pense qu'il m'aide aujourd'hui sur plein de domaines. fait, il y a un logiciel qui s'appelle ZoomText, qui est un logiciel donc d'agrandissement et de synthèse vocale sur l'ordinateur, qui permet de effectivement donc de grossir les caractères de n'importe quel traitement de texte, mais également tout ce qu'il y a sur le bureau de l'ordinateur, voilà, tout ce qui est de l'ordre des onglets notamment, des icônes, et de mettre en relief aussi tout ce texte-là. Donc par exemple en contraste noir élevé, avec un fond noir, avec des écritures blanches, voilà, de mettre en couleur, de mettre en relief. Et également, ce logiciel permet d'avoir une synthèse vocale qui va lire en fait tout ce que vous pouvez surligner par exemple avec le curseur. Voilà, donc ça est sélectionné, donc ça va permettre de lire un paragraphe, de lire une page entière de cours. Voilà. Dans chaque université, il y a une mission handicap qui permet effectivement d'engager des étudiants au sein de l'université pour prendre les cours à notre place, donc sur ordinateur directement. Et ces personnes-là sont chargées de nous les envoyer régulièrement pour qu'on puisse les avoir sur notre ordinateur. Et en fait, après ça, nous, c'est à notre guise. Soit effectivement, on les lit au niveau vocal, soit voilà, on les grossit avec notre logiciel et on les lit de cette manière-là. Ça a été compliqué au niveau universitaire puisque, encore une fois, au niveau des aménagements, il faut toujours se battre. Depuis le début de ma licence, j'entends toujours le même discours de « maintenant, tu as plus de 18 ans, il faut être le plus autonome possible, donc on va faire finalement comme si tu n'avais pas de handicap pour que tu puisses t'intégrer du mieux possible. » Sauf qu'en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que c'est pas possible, en fait. La situation de base, elle est pas équitable. Bien sûr, j'avais 18 ans comme les autres, etc. Mais j'avais pas les mêmes capacités. Et ça, ça a été compliqué à faire entendre, en fait. Voilà. Parce qu'ils avaient l'impression que c'était une question plus de flemme de ma part et d'avoir des aménagements à tout prix pour que ça soit plus facile, etc. Il va falloir que je m'oriente par rapport à mes autres sens et mes souvenirs. Beaucoup de souvenirs, de me dire, je sais que cette rue commence comme ça. Je sais que par la suite, il y aura tel et tel élément dans cette rue-là, tel bâtiment, etc., que je ne verrai pas à l'avance, en fait. Donc, c'est vraiment une mémorisation des souvenirs. Et en fait, là, pour le coup, je redécouvrais vraiment mon espace, j'arrivais à voir de beaucoup plus loin, je redécouvrais aussi le visage de mon entourage, entre autres mon copain de l'époque, donc c'est quand même assez dingue, en fait, parce qu'on retrouve des détails qu'on ne voyait plus. Quand on fait la cuisine, c'est beaucoup plus simple. Quand on va, ce qui est très compliqué quand même, quand on voit pas bien, c'est quand même d'aller faire les courses. Tout est écrit en minuscules, on n'y voit rien. Quand on a la cataracte et qu'on perd vraiment la vue, vous avez beau avoir une loupe, ça change rien. Donc voilà, toutes les inscriptions, notamment dans les transports en commun, c'est pareil. C'est des choses qu'on ne voit plus, en fait. Donc on est constamment en train de demander notre chemin, notamment. Suite à tout ça, donc j'ai appris à ce que c'était la, vraiment la douleur chronique, puisque effectivement j'avais des ulcères qui se mettaient à répétition à partir de 2012, sur ma cornée, et pour le coup ça n'a pas été simple à gérer. Donc j'ai continué à avoir une vie étudiante très 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 entrecoupée. Donc j'ai décidé en 2013, j'ai décidé que vraiment ça devenait quand même, après avoir obtenu ma licence, ça devenait quand même très compliqué pour moi. Ça avait été très lourd et la scolarité avait été quand même assez longue, 5 ans c'était long. Je savais pas trop si j'avais le courage de poursuivre mes études ou pas, mais j'avais en tout cas l'envie et l'envie d'aller au bout de ce que j'avais commencé. Donc bon, voilà, ça c'était une chose. Mais j'ai décidé de partir, de faire une grosse coupure. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire un break et de partir en voyage. Donc j'ai commencé en fait à faire des petits boulots à partir de 2013 pour financer mon voyage. J'avais fait des économies depuis très longtemps. J'avais dans le rêve en fait de partir au Canada depuis déjà 10 ans, je pense. Donc ça faisait un sacré bail. Et donc j'avais un nouveau petit copain cette année-là avec qui effectivement le feeling est très bien passé et pour qui lui aussi avait le souhait de partir en voyage. Donc on a décidé en fait de mettre de l'argent de côté et de partir ensemble un an après. Donc on est parti pendant un an, on a tous les deux obtenu en fait notre visa vacances-travail. On est parti de 2015 à de 2014 à 2015. Voilà, et ça a été comment dire, ça fait partie d'une émancipation et d'une libération incroyable, parce que partir à l'autre bout du monde, voilà. Alors même si on est à deux et qu'on n'est pas complètement seul, ce qui change quand même beaucoup, j'étais avec quelqu'un qui me connaissait très très bien, qui était capable pour le coup de me décrire le moindre relief sur le sol. Donc j'étais vraiment particulièrement en confiance, et donc j'ai voyagé comme ça avec lui pendant un an, particulièrement en mode road trip, puisque le but n'était pas du tout d'avoir un train-train quotidien, chose qu'on avait déjà en France, mais c'était surtout effectivement de voyager, de faire des rencontres, de sortir de notre zone de confort en fait au maximum. Donc on a acheté une voiture et puis on a voyagé pendant un an, voilà, au Canada et aux États-Unis. Après cette expérience assez folle, où je me suis encore beaucoup découverte et j'ai appris davantage qui j'étais et ce que j'avais envie, ce dont j'avais envie en tout cas pour un futur proche, je suis rentrée et j'ai décidé de repartir sur un master à Lyon, en psychologie de la santé. Donc pour travailler en fait par la suite, donc en tant que psychologue, mais dans le domaine de la santé somatique. J'ai toujours ces douleurs chroniques, j'ai toujours ces ulcérations qui peuvent débarquer en fait à partir du moment où la sécheresse de l'œil est trop présente suite à des situations de stress notamment, voilà, ou de forcing si je force trop sur mes yeux. Donc ça peut aussi beaucoup jouer, et du coup j'ai décidé, voilà, de prendre plus mon temps encore et encore. Et je suis voilà, sur ma deuxième année de Master 1 cette année, que je termine là, voilà, à la fin de l'année. Normalement, en juin, j'aurai terminé mon Master 1. Donc effectivement, ça fait très longtemps, j'ai commencé mes études en 2008 et nous sommes en 2018. Mais en fait, ça a été vraiment un choix de ma part pour le coup. Je pense que j'aurais pu faire autrement, mais je me suis rendu compte à quel point ça me convenait bien comme cadence. Et je me suis dit, mais en fait, t'as deux choix. T'as le choix que ça soit anxiogène pour toi et que tout soit compliqué et que tu puisses prendre les choses de façon vraiment très difficile dans ton quotidien, ou t'as le choix d'en faire quelque chose en fait de bien pour toi, dans lequel tu te sentes vraiment vivre en fait, et c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire que j'ai décidé de pas juste venir ici pour mes études, de vivre pleinement cette ville et de la découvrir à ma façon. Ma déficience visuelle, en fait, elle a provoqué, je pense, comme beaucoup dans d'autres maladies, elle m'a amenée à focaliser quand même mon attention sur un problème, sur une partie de mon corps très précise. Et je crois qu'à un moment donné, on a tendance à désinvestir le reste. C'est-à-dire que mes yeux, ça fait pas tout, quoi. Il y a tout le reste du corps qui vit, qui peut créer, qui peut, voilà, qui se développe, etc. Et en fait, on a tendance toute notre vie à vraiment focaliser sur ça, à se dire qu'il faut s'adapter en permanence par rapport à ça. Et à un moment donné, on se dit, mais ouais, mais en fait, chouette, je peux faire plein d'autres trucs. Et chouette, je suis pas que ça, effectivement, comme on disait tout à l'heure. Donc, cette médiation artistique qui est la danse du coup, et qui est thérapeutique également, m'a permise de reprendre complètement conscience de mon corps dans son ensemble, de par entre autres la méditation, et de le réinvestir complètement, de le réinvestir, et de réinvestir aussi l'espace finalement qui est la ville autour de moi, de façon très différente, et d'être sereine quand je me balade dans la rue du coup, et de moins focaliser peut-être mon attention sur la représentation que les gens peuvent avoir du handicap, et voilà. Donc je pense que ça a été finalement, cette arrivée à Paris pour moi a été essentielle. Ça a été un choix très difficile, mais par contre, au niveau du développement personnel, c'est révélateur vraiment de beaucoup de choses. Et je me sens particulièrement bien ici, justement parce que je me découvre totalement différemment et je me sens pas du tout ni stressée dans cette ville qui n'est pourtant pas du tout adaptée. Je me sens bien partout où est-ce que je vais en fait.
Paris, c'est pas adapté aux personnes malvoyantes ?
Non, pas du tout. Mais aux personnes en situation de handicap tout court.
C'est quoi les difficultés principales au quotidien ?
Principalement, les transports en commun, le métro parisien, qui n'est pas du tout bien indiqué et qui, c'est-à-dire que généralement les panneaux sont écrits tout en haut et voilà, donc
il faut. Mais il parle le métro quand même.
Alors, ça dépend des lignes. Mais majoritairement, c'est pas le cas. Ça dépend des lignes de métro. Là, par exemple, la 9 parle. Mais c'est dans beaucoup de cas, ça l'est pas. Voilà. Après, donc, c'est aussi l'accessibilité au transport. Il y a quand même très peu d'ascenseurs. Il y a très peu d'ascenseurs. Il y a des escalators, mais pas tout le temps. Il y a quand même beaucoup d'escaliers. Il y a effectivement, depuis 2005, normalement, une loi pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap qui n'est pas du tout appliquée pour le coup, pour la ville de Paris, parce que les transports sont très anciens et qu'effectivement, tout réhabiliter, c'est compliqué. Mais effectivement, quand on voit les transports lyonnais, donc les transports lyonnais sont beaucoup plus récents, mais ils sont beaucoup plus adaptés pour... Enfin, ils sont beaucoup plus adaptés, pour le coup, voilà. Après, je pense qu'effectivement, ça va prendre du temps, mais au niveau de l'accessibilité, des marches, des ascenseurs, des inscriptions, de tout ce qui est vocalisé, je pense que c'est quand même pas très compliqué, sur une ligne de métro, d'installer quelque chose de vocal pour dire les stations. Moi, ce qui se passe, c'est que je compte le nombre d'arrêts que j'ai à réaliser. Donc vous pensez bien que comme n'importe qui, au bout d'un moment, je pars dans mes rêveries et j'oublie que mince, j'en étais à la 12e station et oh, où je suis. Voilà, donc je prends le temps d'anticiper tous mes trajets. Il y a un site qui est très bien, qui s'appelle Métro Connexion, qui permet en fait d'identifier avant de prendre un trajet comment on va se déplacer. C'est-à-dire on entre en fait le départ, c'est-à-dire la station de départ de métro et la station d'arrivée, et ça vous décrit comment en fait on va passer d'une station à une autre. Donc avec le changement, par exemple, quand vous avez des correspondances, on va vous expliquer, voilà, il faudra prendre tel couloir, aller à droite, etc. Vous aurez un carrefour en T, vous prendrez à droite à ce moment-là. Enfin voilà, ça va décrire vraiment toutes les correspondances dans le métro. Moi, aujourd'hui, où j'en suis, je me suis vraiment détachée en fait de cette identification à ces études où effectivement, ça fait partie de ma vie, mais pour moi, c'est plus ma priorité. Ce qui est aujourd'hui ma priorité, c'est ce que je vis dans mon quotidien. C'est vraiment de vivre, voilà, de pouvoir exploiter chacune de mes expériences dans Paris et de savoir ce que j'en fais. Moi, de mon côté, j'ai effectué une dernière anecdote par rapport à Paris, cette année une expérience très particulière qui s'appelle l'écolocalisation, qui est la technique normalement des dauphins et des chauves-souris pour se déplacer au niveau des ondes sonores dans leur espace, dans leur environnement. Et j'ai eu l'opportunité en fait avec avec quelqu'un qui travaille particulièrement avec les mammifères marins, d'expérimenter ça dans Paris. Donc pour les personnes déficientes visuelles, où on a un bandeau sur les yeux, on a un grand bâton au cas où pour voilà, essayer d'éviter les obstacles, etc. Et en fait, on lâche un peu comme ça, enfin, bien sûr les gens sont présents, mais disons qu'on était un petit groupe et qu'on nous a appris avec un claquement de langue en fait, à essayer de localiser en fait les obstacles autour de nous et de se localiser dans la rue. C'est-à-dire, ben voilà, s'il y a un mur, s'il y a une entrée d'immeuble, enfin ce genre de choses quoi en fait. Et ça c'est assez extraordinaire comme. Alors ça marche, oui et non, c'est-à-dire que c'est quand même très compliqué parce qu'il y a un brouhaha ambiant en ville qui est quand même assez compliqué, mais par contre si on fait ça à la campagne, je pense qu'on est très vite sensibilisé à ce genre de truc. C'est un apprentissage, effectivement, ouais, d'un claquement de langue. On peut essayer d'entendre les échos et les ondes qui se passent autour de nous pour localiser où est-ce qu'on se trouve. Je pense qu'on ne peut pas se déplacer qu'avec ça, évidemment, mais par contre ça peut être vraiment un plus, et c'était extraordinaire de comme expérience, parce que ça permet de se concentrer sur tous nos sens à la fois, en fait, et particulièrement de s'intéresser à l'espace qui nous entoure. Et je pense qu'au niveau de la conscience de soi, en fait, de vraiment de soi dans son entité, dans un espace-temps, c'est hyper intéressant. Donc ça m'a appris beaucoup de choses. Les a priori qu'on a pu me donner sur les Parisiens, finalement, je les ai presque pas. Parce que, pour le coup, la majorité du temps, les gens me répondent, la majorité du temps, les gens m'aident, les gens discutent même avec moi. J'ai fait des rencontres où j'ai pu revoir des gens par la suite, suite à des échanges dans le métro qui sont très à la base, de l'ordre du quotidien, en fait, et qui peuvent paraître anodins. Donc voilà, donc j'expérimente en fait beaucoup de choses depuis que je suis là. Et c'est ça qui me plaît, et je pense que j'aurais pas fait ça, en fait, ailleurs. C'est vraiment Paris qui m'offre cette possibilités et ces rencontres.
Cedex, aventure, rencontre, conversation.
Oh, to see without my eyes the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around. White noise, what an awful sound.